Vous écoutez RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 8h40. Dans quelques instants, nous serons avec Laurent Gérard. Mais tout de suite, notre revue de presse, Amandine Bégaud. Et d'abord, Amandine, cette initiative, alors pour le coup étonnante, une messe pour Johnny Hallyday.
Oui, elle aura lieu mercredi prochain. Notez bien, le 6 décembre à 9h dans la petite chapelle de Griège. C'est une commune de 1900 habitants dans l'Ain. C'est ce qu'on peut lire ce matin dans Le Progrès. Une messe pour prier pour la guérison du pape du rock'n'roll français, écrit le journal. C'est un paroissien, figurez-vous, qui en a fait la demande en adressant un don au père Olivier Barnet. Dans ce courrier, ce paroissien, qui souhaite rester anonyme, écrit ceci. « Veuillez accepter cette offrande de messe pour la guérison d'un grand malade, très affaibli, notre grande star de la chanson française, Johnny Hallyday. Nous devons, conclut-il, prier pour lui. » Surpris, le prêtre accepte. « C'est une joyeuse surprise, dit-il, de voir qu'un paroissien pense à prier pour un homme public au-delà des frontières de la paroisse ou de la famille. Une perle, dit-il même, dans le ministère d'un prêtre. » C'est ce qu'il écrit sur son compte Facebook. Une perle, oui, mais pas question, pour autant, précise-t-il, de tomber dans l'idolâtrie. Ce sera très simple, pas diffusion d'un des tubes de Johnny, même s'il le reconnaît, il apprécie ses chansons. « Allumer le feu, notamment. » Le feu de l'Esprit Saint, conclut-il.
Bon, en tout cas, on a tous découvert la chapelle de Griège. Dans l'Obs, une autre initiative qui risque de faire du bruit.
Oui, Nicolas Hulot veut instaurer un repas végétarien au moins une fois par semaine à l'école. Le ministre de la Transition écologique, pas végétarien lui-même, il mange, reconnaît-il, encore de la viande une fois par semaine. Mais il explique vouloir éduquer les plus jeunes. C'est comme ça que ça va changer quant à son avenir au sein du gouvernement. Il y reste, dit-il, contrairement à ce qu'on avait pu croire ces dernières semaines. Ni l'affaire du report de la part du nucléaire dans notre production d'électricité, ni celle du glyphosate ne lui ont fait changer d'avis. Je suis là, explique-t-il, parce que je veux aller au bout de ma démonstration. Oui, le changement en profondeur est possible. Je n'ai jamais pensé que j'allais faire en quelques mois ce que mes prédécesseurs n'avaient pas réussi. Il dit n'avoir conclu aucun deal, ni avec Emmanuel Macron, ni avec Édouard Philippe, lors de son entrée au gouvernement, pas même sur l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Mon opposition à ce nouvel aéroport était connu et d'ailleurs s'il décidait finalement de le construire, eh bien Nicolas Hulot ne claquerait pas pour autant la porte du gouvernement. Je ne fonctionne pas comme ça, explique-t-il. Si je vous dis que c'est une ligne rouge, c'est une forme de chantage. Or, je ne veux rien obtenir par le chantage. Ce ne serait pas sain ni durable. Notre-Dame-des-Landes, justement, et ce grand dossier à lire cette semaine dans Le Point qui revient sur ce projet kafkaïen, dossier passionnant. J'ai notamment appris qu'un avion s'était déjà posé sur ce site. Oui. C'était en septembre 1944, en pleine Deuxième Guerre mondiale. Le bocage nantais abritait alors un aérodrome américain qui a été pilonné par les Allemands. 73 ans plus tard, au même endroit, la boue est encore là, écrit Clément Pétraud. Et dans les esprits, il est encore question d'avions, de maquis, de combats. Le journaliste qui revient sur cette saga qui a empoisonné la vie de tous les gouvernements, ou presque, depuis plus de 50 ans. Certains s'en seraient même servis pour se faire un nom, à l'image de François de Rugy, ancien aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Il y a quelques années, raconte Le Point, celui qui était alors adjoint au maire de Nantes, explique: désolé au maire d'une des communes limitrophes, tu comprends, si je veux exister nationalement, je suis bien obligé de m'y opposer. Notre-Dame-des-Landes, qui servira d'ailleurs, conclut l'hebdomadaire, de piste d'envol aux écologistes en mal de notoriété. C'est pour cela qu'en 2010, les Verts organisent leur nid université d'été à Nantes et décident de faire de ce grand dossier une cause nationale. Sa cause à lui, eh bien, c'est le Brexit, d'éviter en tout cas le Brexit. Il est encore possible d'arrêter tout cela. C'est ce que confie ce matin Tony Blair dans les colonnes du Figaro. L'ancien Premier ministre britannique, bien décidé à s'investir, convaincu, explique-t-il, que les Britanniques sont en train de changer d'avis. C'est d'ailleurs pour cela, selon lui, que les conservateurs ont perdu la majorité au Parlement. Une fois les négociations terminées, il réclame un nouveau vote, au moins au Parlement. Les Britanniques, ajoute-t-il, ont voté comme s'ils faisaient un échange de maison, mais sans avoir vu celle qu'ils allaient occuper. Je crois qu'il est essentiel qu'avant de prendre la décision irrémédiable de déménager, nous ayons au moins vu à quoi ressemble la nouvelle maison, l'image. Elle mérite d'être claire. Et puis, juste pour le plaisir, je vous conseille ce matin de lire le billet de Michel Chiffre dans L'Opinion. Michel Chiffre vend debout. Après avoir appris, on en parlait tout à l'heure avec Cyprien Sinic, le Yeti, en fait, n'existe pas, qu'il ne s'agirait que d'un ours. Quelle triste époque, écrit-il. Époque où les études scientifiques mettent à mal ce qui nous a tant effrayés et fait rêver, permettant l'imagination de se déployer. Quel que soit notre respect pour la science, nous ne pouvons pas, dit-il, l'accepter. Qui sera le prochain? Le monstre du Loch Ness? De grâce qu'on nous laisse nos illusions, c'est aussi ce qui permet de vivre. Fin de citation, il n'y a plus qu'à prier.
Amandine Bégaud.